Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre grand jury à mes côtés aujourd'hui. Pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro, bonjour Guillaume, et Christophe Jacubizine de TF1, bonjour. LCI. Dans notre rubrique La Question en Plus, c'est Daniel Keller, président de l'Association des anciens élèves de l'ENA, qui vous interpellera, Gérald Darmanin, sur le devenir de cette grande école de l'État. Et le grand jury, vous le savez bien sûr, est une émission interactive, vous pouvez toujours réagir en direct sur tous les réseaux sociaux, hashtag le grand jury, vos commentaires, vos réactions en direct. Et enfin l'émission, Marie-Pierre Haddad viendra les relayer au ministre pour questions nettes. Alors Gérald Darmanin, récemment vous avez expliqué à des enfants votre mission dans ce gouvernement. « Je m'occupe de l'argent », leur avez-vous dit, « et les autres ministres viennent me demander la carte bleue de l'État ». C'est imagé, mais ça a le mérite d'être clair. Sauf que le distributeur, l'État en l'occurrence, est depuis longtemps vide. Et avec les 27 milliards d'euros de réduction fiscale que votre gouvernement entend accorder aux Français d'ici la fin du quinquennat, vous n'allez pas arranger votre compte en banque. Cette politique de pouvoir d'achat pourrait aider la croissance française, mais cette redistribution, c'était d'abord une réponse aux gilets jaunes, une réponse en quelque sorte sous la contrainte, donc, à vous, désormais, Gérald Darmanin, qui détenait les cordons de la bourse, de trouver des économies. Quelle contrepartie allez-vous demander aux Français? Ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent espèrent aujourd'hui obtenir des réponses. En ce qui vous concerne, une chose est sûre, vu l'état de la droite, vous ne regrettez certainement pas d'avoir quitté les Républicains, mais par ricochet, vous avez aussi contribué à son explosion, au risque de vous retrouver face à une seule alternative possible, le Rassemblement National. Nous en parlerons bien sûr dans la deuxième partie de cette émission, mais tout de suite, nous revenons donc sur l'actualité de la semaine, le discours de politique générale du Premier ministre, les annonces de baisse d'impôts. La première question vous est posée par Guillaume Roquette.
Oui, dans ce discours, le Premier ministre a annoncé des baisses d'impôts pour les contribuables les moins imposés. Ça veut dire que les autres, les classes moyennes supérieures, ceux qui gagnent plus de 3 500 € par mois, ils n'auront rien dans ce quinquennat?
Non, ce n'est pas vrai. La baisse d'impôt de l'impôt sur le revenu, les 5 milliards de baisse d'impôt sur le revenu, qui va avoir lieu dès le mois de janvier prochain, c'est pour tous les contribuables qui, aujourd'hui, gagnent moins de 7 000 € à peu près. C'est-à-dire que nous assumons...
7 000 € par mois?
Oui, c'est ça. Vous aurez l'occasion de considérer que 95% des contribuables, il y a 45% des Français qui payent l'impôt sur le revenu, 95% des contribuables vont avoir une baisse de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'un ministre qui gagne à peu près 8 000 € par mois n'aura pas de baisse d'impôt sur le revenu, ce qui me paraît assez logique. Et toutes les classes moyennes, les classes populaires qui payent l'impôt sur le revenu vont connaître cette baisse.
Parce que les deux premières tranches de l'impôt, oui, ça concerne 95% des Français.
Un célibataire qui aujourd'hui gagne 2 000 € et qui est effectivement 2 000 € net, il n'a pas d'autres revenus. Aujourd'hui, il paye à peu près 1 600 € d'impôt par an. Il paiera l'année prochaine 1 000 €. Il aura à peu près 550 € de gain de pouvoir d'achat, et dès le mois de janvier. Un couple qui a 2 enfants, qui gagne 4 600 €. On peut imaginer qu'elle est secrétaire, que lui est policier municipal. Ils gagnent, parce qu'ils sont en fin de carrière, 4 600 €. Ils ont 2 enfants. Aujourd'hui, ils vont avoir, grâce à la baisse d'impôt sur le revenu décidée par les parlementaires et le Premier ministre, il va avoir à peu près 550 € de gain de pouvoir d'achat, d'impôt en moins. Je voudrais dire que le gouvernement d'Emmanuel Macron aura donc été celui qui aura le plus baissé les impôts de tous les gouvernements de la République. 22 milliards de suppression de baisse de taxes d'habitation, puisque tous les Français auront la suppression totale de leur taxe d'habitation.
Pas dans le quinquennat.
Si, dans le quinquennat.
Pour 20% des Français.
Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai.
Le président de la République a tenu un engagement devant les Français. Le Premier ministre l'a confirmé. En 2023, il n'y aura plus de taxe d'habitation. Comme nous supprimons la taxe d'habitation par tiers pour les 20% les plus riches d'entre nous, si j'ose dire, en 2023, la feuille que recevront les contribuables, ce sera zéro. Donc en 2022, dans le cadre du quinquennat du président de la République, il y aura eu en 5 ans 22 milliards d'euros de suppression de taxes d'habitation. Il y aura la suppression que tout le monde a constaté depuis 2 ans des cotisations salariales pour ceux qui travaillent. Et ça, c'est un gain de pouvoir d'achat net qui a été fait depuis 2 ans. Et puis, il y a la baisse de l'impôt sur le revenu, comme je l'ai évoqué. évoquez. C'est donc effectivement 27 milliards de baisse d'impôts pour les ménages. Et c'est la plus grande baisse d'impôts que le gouvernement de la République n'ait jamais
faite. Gérald Darmanin, soyons très concrets, très précis. Vous avez dit à Guillaume Roquette que tout le monde sera concerné, y compris donc un couple qui gagnerait 7 000 euros.
Non, par
alors, dites-nous, c'est ça qui...
Jusqu'à 7 700. J'essaye d'être le moins technique possible, parce que je pense que ce qui intéresse la question de M. Roquette, c'était les classes moyennes. Bon, je ne suis pas sûr qu'à plus de 6 000 euros, on soit une classe moyenne dans notre pays.
Mm-hmm. La classe moyenne supérieure.
Très supérieure, alors peut-être pour les lecteurs du Figaro et pour moi. Mais franchement, les Français, en moyenne, ils gagnent 1 500, 2 000, 2 500 euros. Ils se demandent comment ils terminent leur fin de mois. Ils sont des familles monoparentales. Il y a des femmes qui ont deux enfants et qui payent l'impôt sur le revenu quelques centaines d'euros. Et ils n'arrivent pas à terminer leur fin de mois, et c'est compliqué à expliquer quand on travaille et qu'on n'arrive pas à terminer ses fins de mois. C'est la réponse, me semble-t-il, de la crise de la société depuis de nombreuses années, et singulièrement aussi celle qu'ont évoquée les Gilets jaunes, en tout cas au début de la crise des Gilets jaunes. Et ce qu'a voulu le gouvernement, c'est une baisse d'impôts qui est ciblée pour toutes les classes moyennes et toutes les classes populaires. Parce qu'on voulait justement répondre à votre interrogation. Il y a toujours des gens qui disent « c'est jamais pour moi ». Moi, je travaille, moi, je fais des efforts, je fais peut-être des heures supplémentaires, je ne bénéficie pas de minima sociaux, je suis dans la tranche du sandwich, toujours au milieu, jamais trop riche, jamais trop pauvre, et je ne bénéficie pas, de ces baisses d'impôts. Nous avons décidé que ceux qui devaient en priorité avoir la plus grande baisse d'impôts, c'était évidemment ceux qui étaient les classes populaires et les classes moyennes, ceux qui, 2 000, 3 000 euros par mois, 4 000 euros par mois en couple. Et pour répondre à votre question, au-dessus de 6 700 euros de revenus par mois, on ne bénéficiera pas de cette baisse d'impôt sur le revenu. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôt, mais il n'y aura pas de bénéfice de la baisse d'impôt sur le revenu. 95% des contribuables aujourd'hui vont connaître une baisse d'impôt.
Pourquoi avoir attendu 2020 pour que ces Français-là ressentent les baisses d'impôts, alors que par exemple vous avez accordé la suppression de l'ISF immédiatement en arrivant au pouvoir en 2017?
Alors ce n'est pas vrai. Lorsque nous avons fait voter la suppression de l'impôt sur la fortune, on l'a remplacé d'abord par l'impôt sur la fortune immobilière, c'est-à-dire ce que vous avez encore une très grande maison qui vaut plus d'un million, 400 millions d'euros, vous payez toujours l'impôt sur la fortune. On l'a mis dans le projet de loi de finances 2017 et c'est appliqué l'année d'après. Chacun sait qu'on vote un budget une année qui s'applique l'année d'après. C'est ce que nous faisons. Nous votons cette année la suppression de 5 milliards de baisse d'impôt sur le revenu pour les classes moyennes et les classes populaires et ce sera l'année d'après. Je voudrais d'ailleurs ici souligner que grâce à l'impôt à la source, ce ne sera pas en septembre 2020 que les Français vont voir leur baisse d'impôt, ce qui serait arrivé en payant leur tiers prévisionnel, évidemment. Mais à partir de janvier 2020, désormais, dans quelques mois, à la fin du mois de janvier, sur leur feuille de paye, sur leur feuille de retraite, les Français vont voir une augmentation de pouvoir d'achat par la suppression de l'impôt que décideront les parlementaires en octobre prochain.
C'est comme un virage politique. Vous commencez par l'ISF, une partie en tout cas, et puis là maintenant vous baissez les impôts sur les classes populaires et moyennes.
C'est parce qu'entre temps il y a eu la crise des Gilets jaunes. Gérald Darmanin, c'est une réponse à cette crise.
Non mais bien sûr.
Pas fait.
Alors, pas la baisse de l'impôt sur le revenu, ce n'était pas dans le programme du président de la République, évidemment. Ouais. Mais en même temps, il faut bien constater qu'il y avait beaucoup de baisses d'impôts dans le programme du président de la République. On a supprimé l'ISF en même temps qu'on a supprimé la taxe d'habitation. Je rappellerai d'ailleurs que la taxe d'habitation, c'était 9 milliards décidés par le Parlement dès le mois de septembre 2017. L'ISF, c'était à peu près 3 milliards, puisqu'on retire l'IFI que nous avons conservé. Nous avons supprimé les cotisations en une fois, rappelez-vous. C'était d'ailleurs un débat de savoir si c'était en deux fois ou une fois. On l'a fait pour tous les Français, pour tous ces Français qui travaillent et qui ont vu une augmentation de leur pouvoir d'achat. Il y a eu une demande particulière, parce que, vous savez, ça fait quand même, depuis que je regarde votre émission, depuis que je suis petit et que je m'intéresse à la politique, qu'on dit qu'il y a trop d'impôts en France. Jamais vous ne baissez les impôts. Ben voilà, le gouvernement Emmanuel Macron, il baisse ses impôts pour tout le monde.
Et
il ne choisit pas la baisse des impôts.
Mais il a fait la baisse
d'impôts pour les sociétés, pour les entreprises, et il fait la baisse pour les ménages. Et vous savez quoi, en plus, en améliorant nos comptes publics.
Alors on va revenir, une marche après l'autre. Gérald Darmanin, est-ce que vous étiez un militant de la baisse des impôts parce que vous dites qu'il faut parler au peuple, on va y revenir, vous avez donné une interview dans ce sens au point. Et justement, on se dit, vous personnellement, vous avez été aidé par la crise des Gilets jaunes pour persuader le gouvernement Emmanuel Macron et Édouard Philippe de baisser les impôts.
Juste aimé que nous ayons un peu plus de calme dans le pays et qu'on ait eu le temps de réformer avec la concertation, l'écoute qu'on a essayer de mettre en place, on a sous de ses ordres depuis un an et demi. On a fait de grandes réformes.
Mais sans eux,
la réforme de la fiscalité, la réforme du code du travail, la réforme de la SNCF, des réformes que personne n'avait jamais fait depuis 30 ans. Mais il est vrai que j'étais parmi de ceux qui disaient qu'il fallait continuer à baisser les impôts, notamment pour les ménages. Et il n'y a pas 150 solutions. Il y avait effectivement la fiscalité locale, ce qu'a décidé le président de la République, j'étais très heureux. L'impôt sur le revenu, avec la défiscalisation des heures supplémentaires, ce qui était prévu au début, c'était juste les cotisations en moins. Là, nous avons fait la défiscalisation des heures supplémentaires. Et vous savez à quel point je suis très sensible à cette question des heures supplémentaires. Parce que c'est les Français qui travaillent, c'est les ouvriers, c'est les employés, c'est la caissière de chez Auchan, c'est l'ouvrier textile de Tourcoing qui a plus de pouvoir d'achat.
C'est la rue qui vous
et la baisse de l'impôt sur le revenu.
Maintenant, c'est terminé, les baisses d'impôts, il y en aura d'autres. On se souvient que vous vous étiez prononcé pour la suppression de la redevance audiovisuelle. C'est toujours d'actualité?
Ce n'est pas le choix qui a été fait par le président de la République et le Premier ministre. Il a fait le choix d'une baisse.
Il l'a fait sur d'autres sujets.
Il a fait une choix de baisse massive, de baisse d'impôt sur le revenu. Donc la question de la redevance télé se posera sans doute dans les années prochaines, parce qu'on voit bien que c'est un impôt qui est déconnecté finalement de l'usage et de l'affectation qu'on en fait. La réforme de l'audiovisuel public, par exemple. Franck Riester va porter un projet de loi bientôt. La question est de savoir désormais comment on adresse cette taxe, cette redevance télé d'à peu près 130 euros aux ménages, puisque c'était adossé leur taxe d'habitation. On a une solution pratique qui est éventuellement de l'adosser à l'impôt sur le revenu, sur la déclaration d'impôt sur le revenu. Donc,
vous êtes favorable, vous, ou pas? Au maintien de cette redevance. Mais
moi, le président de la République.
Pas.
Non, mais il y a eu un moment du grand débat. Oui. Les ministres y ont d'ailleurs sur votre plateau. D'ailleurs, me semble-t-il, je l'ai confirmé, j'ai proposé soit la baisse de l'impôt sur le revenu, soit la suppression de la taxe redevance télé. Le président de la République a tranché. Maintenant, il faut appliquer ce qu'a décidé le président
de la
République.
Donc, pas d'autres baisses d'impôts d'ici la fin du quinquennat.
Mais moi, je ne suis pas le président de la République et le Premier ministre. Je suis en charge de faire le budget pour l'année prochaine.
Donc, step by step. Sur la question.
Comme on dit en ch'timi, step by step. Donc, on va d'abord attendre de faire voter le budget l'année prochaine. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de luttes contre la fraude fiscale. J'ai dit des choses sur la TVA, notamment, qui va beaucoup intéresser les entreprises françaises. Il y a la fiscalité locale, puisque je suis chargé avec Jacqueline Gourault de réformer la fiscalité locale et de donner aux collectivités locales les moyens désormais de leurs ressources sans augmenter les impôts des contribuables et d'appliquer la baisse de l'impôt sur le revenu. Avouez que c'est un beau menu déjà pour les prochains mois.
Mais est-ce que vous pourriez pas dire, je préfère que ce soit financé par la publicité que par la redevance télé, l'audiovisuel public?
Mais encore une fois, la question a été tranchée par le président de la République.
Ah, donc il n'y aura pas. Donc c'est clair, net et
le président de la République a dit fait la baisse de l'impôt sur le revenu.
Bon,
mais
vous pouvez avoir un désaccord.
Vous parlez des économies, c'est très intéressant. On fait la plus grande baisse d'impôt de toute l'histoire de la République et en même temps, nous améliorons nos comptes publics très significativement. Quand je suis devenu ministre des comptes publics, notre déficit, c'est la Cour des comptes qui l'a dit, était de 3,4%. L'année prochaine, il sera autour de 2%. Alors 1,4%, on doit se dire, derrière sa radio, derrière sa télé, c'est pas beaucoup. C'est 28 milliards d'euros. On a amélioré le déficit de 28 milliards d'euros.
Mais cette année, on augmente quand même le déficit.
Nous avons baissé, parce qu'on fait l'allègement de charges pour les entreprises, parce qu'on fait la bascule CICE allègement de charges, c'est à peu près un point de déficit de ressaut. Et on l'a toujours dit dans nos documents budgétaires. C'est pour ça que la France n'est pas l'Italie. L'Italie rentre dans un processus de sanctions de la Commission européenne, et la France, elle, ne l'est pas. La France emprunte aujourd'hui, ça c'est important pour les Français, elle emprunte à 0,22%. Les banquiers considèrent que la France est tellement sûre que nous empruntons à 0,22%. L'Italie emprunte à plus de 2%. Donc nous sommes non seulement le gouvernement des baisses d'impôts pour les ménages et pour les entreprises, de la baisse du chômage, le chômage baisse, pas encore assez vite, mais il baisse, et du rétablissement des comptes publics.
Vous êtes en train de parler de la baisse du coût de la dette. Est-ce que ça veut dire que vous faites partie de ceux qui, dans le monde économique, disent qu'au fond, on emprunte tellement peu cher aujourd'hui que endettons-nous encore davantage, ça n'a aucune importance?
Alors, c'est pas ce que je dis. Et moi, je ne crois pas à cette discussion. À première vue, on pourrait dire que ces gens ont raison. Chacun comprend qu'il vaut mieux acheter sa maison lorsque les taux d'intérêt sont bas que lorsqu'ils sont...
Voire négatifs pour l'État.
Mais quand on a 2200 milliards de dettes, quand on a quasiment 100% de dettes, quand on a ce raisonnement, on donne de la morphine. C'est-à-dire qu'on ne fait pas partir la maladie, on ne traite pas les causes de la maladie, on se dit « allez, encore quelques minutes, monsieur le bourreau ». Moi, j'aurais aimé être le ministre du budget allemand aujourd'hui, qui distribue des excédents. Et il se demande qui l'augmente, le ministre du budget allemand. Est-ce qu'il donne raison à l'augmentation pour les agriculteurs, l'augmentation pour l'industrie, l'augmentation pour les retraités? Nous, on gère au contraire le déficit. Et ça fait avant ma naissance. Et permettez-moi de le dire avec provocation, avant la naissance du président de la République, que notre pays dépense plus qu'il ne reçoit. Et notre devoir, c'est de faire ce que la génération dernière n'a pas fait.
Oui, mais Gérald Darmanin, c'était dans les promesses.
C'est-à-dire rétablir nos comptes.
C'était dans les promesses du président de la République de revenir à l'équilibre, quand même au léger excédent en 2022.
Ce n'est pas vrai. La promesse du président de la République, elle est respectée. C'est d'être en dessous de 3% durant son quinquennat et à la fin de son quinquennat. On sera largement en dessous de 3%. Nous sommes sortis dès la première année. Ça m'a valu d'ailleurs quelques critiques, puisque j'ai fait faire des économies tout de suite à une grande partie des ministères avec Bruno Le Maire. Dès la première année, nous sommes sortis de la procédure pour déficit excessif. C'est-à-dire que la Commission européenne nous sanctionnait parce que nous ne respections pas la règle commune, parce que nous avons une monnaie commune.
Comme
et que plein de pays, comme l'Allemagne par exemple, ont fait des efforts que nous n'avions pas fait. Et aujourd'hui, je suis heureux de dire que non seulement on peut baisser les impôts, Mais en plus, on a un déficit qui est 1,5 point, en gros, en dessous de ce que nous avons trouvé en plus de 2 ans de gestion budgétaire. Et on a vu que ce n'est pas facile, parce que la croissance, effectivement, n'est pas aussi haute que nous l'avions espéré, même si elle est,
mais
plus,
alors,
haute,
combien,
même si elle est plus haute qu'une, qu'une partie,
mais
de nos
madame, voisins. Mais combien visez-vous d'économies tout de même d'ici 2022? Pouvez-vous nous donner ce chiffre-là?
Mais c'est un chiffre qui n'a pas de sens, parce que ça dépend beaucoup des recettes que vous avez, de la croissance que vous avez. Ça dépend beaucoup des réformes que vous portez.
Donc,
ça dépend,
exemple,
beaucoup de l'effet de comportement de nos concitoyens.
On donne 27 milliards de crédit d'impôt, de baisse d'impôt. On va chercher l'équivalent en réduction de dépenses.
Je ne conçois pas ma fonction comme le petit comptable, comme il y avait un petit rapporteur, pour parler de Pierre Desproges sur votre plateau, qui dirait, voilà, à la virgule près, à l'euro près, où est-ce qu'il faut qu'on arrive en 2022, et qu'importe l'humanité, qu'importe la proximité, qu'importe la transformation des services publics. Moi, dans mon ministère, je parle de mon ministère. Chaque année, je baisse de 100 millions d'euros mon budget. Mmh. Et j'ai non remplacé 2000 agents publics par an. J'ai fait 4000 agents publics.
C'était 120 000.
Je vous parle de mon ministère. Bon. Pourquoi je fais ces transformations? Je ne les fais pas de manière comptable ou de manière paramétrique, comme diraient les techniciens, en disant chaque année c'est moins 5%. Ça, c'est le plus sûr moyen de ne pas arriver à transformer le pays. Je propose des transformations. Je dis, je vais faire l'impôt à la source. L'année prochaine, 11 millions de contribuables ne recevront plus leur déclaration d'impôt, tout sera automatisé. Nous supprimons la taxe d'habitation. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 agents des finances publiques qui s'occupent de la taxe d'habitation. On supprime l'impôt, on ne va pas, évidemment, garder des agents qui continueraient à travailler sur un impôt qui n'existerait plus. Nous réorganisons le réseau des finances publiques pour le mettre plus proche, d'ailleurs, des campagnes. Nous déconcentrons. C'est-à-dire que nous faisons partir de Paris un certain nombre d'agents qui payent des loyers très chers, avec des immeubles très chers, pour les mettre ailleurs, dans le bassin minier, dans la
Côte. Vous êtes visiblement exemplaire au sein du
gouvernement. Non, mais je vous donne un exemple, et chaque ministère le fait.
Mais alors, du coup,
d'abord les transformations, et à la fin, vous voyez les économies. Jusqu'à présent, c'est d'abord les économies, et les gens ne sont pas contents parce que vous faites des choses à la comptable.
Mais
d'abord les transformations, et après les économies.
Vous pouvez dire que ce n'est plus vraiment une priorité pour vous.
Bien sûr que si, je ne serais pas là devant vous, sinon.
On va y venir justement aux exemples.
Oui, pourquoi avez-vous abandonné cet objectif de 120 000 suppression d'emplois? Parce que ça, pour le coup, dans la fonction publique, ça, pour le coup, c'était dans les engagements du président de la République.
Mais cet objectif n'a pas été abandonné. Le président de la République a dit, on va d'abord transformer le pays, on verra, puisque ce n'est pas un objectif comptable en soi. La tendance doit être la baisse de l'emploi public. Mais on verra, en 2022, le montant exact de suppression.
Mais on en est très loin aujourd'hui.
Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai.
Aujourd'hui, on a fait 4 500 la première année, on va en faire 2 000.
Mais lorsque vous transformez, lorsque vous investissez, vous avez vos retours, pas immédiatement, c'est normal, vous l'avez un an et demi après, 2 ans après. Va arriver le moment où le gouvernement, après avoir beaucoup réformé, va voir les fruits de ces réformes. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, sur les 120 000, il y a à peu près 70 000 pour les collectivités locales et 50 000 pour l'État. Mmh. Les 70 000 pour les collectivités locales seront grosso modo tenues. Je ne suis pas au centième près. Mais pourquoi? Parce que nous avons choisi quelque chose d'intelligent, qui est le contrat, le partenariat avec les collectivités locales. D'abord, il y a 36 000 communes en France, et il y a plein de communes où ça n'a pas de sens de demander des économies quand on est maire d'un village de 500, de 1 000, de 1 500 habitants. En revanche, les grandes collectivités, et moi je suis élu d'une grande collectivité, les 320 plus grosses collectivités, on peut avoir un partenariat avec elles, qu'on appelle la contractualisation. Au début, tout le monde nous a dit « Ah ben, cette contractualisation, ça ne marchera pas ». Ça marche. Elles dépensent moins que ce qui était prévu. Elles ont plus de dotations. Elles investissent plus.
Darmanin,
elles embauchent moins.
Donc
nous tiendrons les 70 000 dans les collectivités locales.
Vous êtes le ministre champion d'Europe des prélèvements sur les Français. 48,4%, ça n'est jamais arrivé. Donc, vous nous expliquez que vous allez baisser les impôts. Alors, n'empêche qu'aujourd'hui, vous avez franchi ce cap. La France est numéro 1 en Europe du prélèvement sur les Français.
Mais c'est ce qu'on vous dit.
Oui.
Mais justement, le début, alors c'était très marrant cette émission, parce qu'au début, vous nous dites que vous baissez trop les impôts, comment vous allez payer, puis maintenant, vous allez me reprocher de
Non, on veut savoir où sont les économies pour financer les baisses d'impôts. C'est ça la question.
Eh bien, les économies, nous faisons beaucoup de réformes, et nous en avons fait, et nous en ferons encore. Lorsqu'on fait la réforme de l'assurance chômage. Oui. Lorsqu'on fait la réforme de l'audiovisuel public, lorsqu'on continue la réforme des emplois aidés, lorsqu'on fait la réforme de la formation
professionnelle. Est-ce que vous allez aller plus loin? Soyons très précis. Il y a 474 niches fiscales en France aujourd'hui pour un manque à gagner de près de 100 milliards d'euros pour les finances publiques.
Gérald Darmanin. Entreprises et ménages.
Entreprises et ménages. Vous avez raison, soyons précis. Quel est votre objectif, vous, ministre des Comptes publics, de réduction du nombre de ces niches fiscales? De 474, on passe à combien? Et combien d'économies par rapport à ces 100 milliards aujourd'hui qu'elles représentent? C'est assez simple.
Alors d'abord,
il faut
qu'on explique pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on a.
Ça, je pense que les Français le savent.
Non, je ne le crois pas.
On va prendre 2 000, mais ce qu'on veut, c'est surtout la réponse.
Oui, mais j'entends bien, mais vous avez vos questions et j'ai mes réponses, comme dirait l'autre.
Ah oui,
mais
enfin, ça, vous
répondez,
c'est l'ancien monde, vous le savez, Gérald Darmanin.
Répondre à monsieur Jacobizine. Mais est-ce que vos deux constats sont vrais? Le pays qui prélève le plus et le pays qui a le plus de niches. mais l'un va avec l'autre. On a fait une politique à la Shadoc depuis 40 ans. On a fait des impôts très hauts, parce qu'on a fait de l'idéologie fiscale. Et puis alors, comme on a vu que cet impôt n'était pas acceptable aussi haut, on a créé plein de niches, un gros gruyère avec plein de trous pour qu'il soit acceptable, pas trop lourd. Et au lieu de se poser la question des impôts trop hauts, on a créé ces niches. Ce qui fait que quand vous voulez supprimer des niches, ça vous paraît sympathique sur le plateau de RTL tout de suite, mais en fait vous apercevez que derrière chaque niche, il y a un chien qui aboie, puisque supprimer une niche, c'est en ça, fait c'est une sûr. Augmentation d'impôts.
Ouais.
Puisque
donc,
la niche, c'est une réduction d'impôts. Donc quand vous supprimez une niche, pour répondre à votre question sur les économies, Monsieur Sportouche dira, mais quand est-ce que vous supprimez des niches? Monsieur Jacobin dira, bon, alors, vous avez augmenté alors, les impôts.
Dites-nous.
Le président de la République a dit qu'on allait combien réfléchir sur ces niches.
Oui.
Et il a dit, on ne touche pas aux niches des ménages, notamment de l'emploi à domicile.
Ça, c'est sûr.
Émilie Cariou, députée La Rêve, dans le JDD aujourd'hui, dit qu'il faut s'attaquer à cette niche de 4 milliards d'euros, notamment en la réservant aux nounous et au poste d'assistant.
Moi, je suis membre de l'exécutif et je vais proposer des choses comme m'ont demandé de proposer le président de la République et le Premier ministre. Le Parlement est souverain, il votera ce qu'il souhaitera. Le gouvernement n'est pas favorable à la réduction des niches pour les particuliers, notamment pour les emplois à domicile, mais le Parlement, et Mme Cariou en particulier, est souverain de son vote et de ses amendements.
Alors donnez-nous des exemples de niches.
Alors, je ne rentre pas dans cet exemple effectivement des ménages, pour me concentrer, puisque le président de la République l'a demandé, sur les entreprises.
Oui.
Il y a deux types de niches qu'a évoqué le Premier ministre lors du discours de politique générale, en cohérence avec les politiques du gouvernement. Les niches anti-écologiques, celles qui, grosso modo, contribuent à faire polluer, et puis les niches antisociales. Si je prends l'exemple de la niche antisociale, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, il y a par exemple ce qu'on appelle la DFS. C'est un petit peu compliqué, mais c'est grosso modo un abattement social qui permet aux entreprises, à certains secteurs, mais beaucoup sont concernés, d'avoir des abattements forfaitaires pour les frais professionnels. Et pourquoi ces niches antisociales? Parce que la dame, par exemple, qui travaille dans une entreprise du bâtiment, elle cotise sur moins d'assiettes. Et c'est le jour où elle est enceinte et elle part en congé, elle a moins de revenus de remplacement, le salaire qu'on lui donne, si j'ose dire, lorsqu'elle est enceinte au lieu de travailler, que sa collègue qui est dans la grande distribution.
Donc vous allez supprimer cette niche fiscale.
Et donc nous allons travailler avec les professionnels du secteur pour réduire cette niche.
Et c'est combien?
Et pour la supprimer.
Vous êtes d'accord que c'est quand même bizarre?
Nous allons donc atteindre l'objectif d'un milliard d'économies l'année prochaine. Et par exemple, cette niche, comme la gazole non routier, qui concerne ce qu'on appelle l'aide au diesel, pour la faire très vite, pour un certain nombre d'entreprises du bâtiment, par exemple, de pouvoir le faire sur plusieurs années, de discuter avec les professionnels, de les aider à s'adapter, de passer d'une machine à une autre. Par exemple, aujourd'hui...
D'ici combien de temps vous voulez la supprimer, cette? Parce que, bien sûr, le bâtiment, Jacques Chanu, le président de la Fédération française du bâtiment, dit avec cette mesure-là, eh bien, on n'embauchera plus, on risque de moins embaucher, parce que ça va nous coûter.
Ça coûte surtout aux petites entreprises du bâtiment, il faut être très attentif à ça. Donc on va discuter avec M. Chanu, je vais discuter avec M. Cavagnier, qui m'ont déjà sollicité. Bruno Le Maire est en charge d'ailleurs en très grande partie de ce dossier. On aura l'occasion de voir avec eux selon quelle modalité, combien et à partir de quand on pourra le faire.
Il y a quand même un contraste très fort entre les annonces de baisse d'impôts. Vous nous dites à l'euro près qu'est-ce que ça va être pour le contribuable.
Je vous ai dit 1 milliard l'année prochaine. Mais vous voyez, par exemple, si je prends l'exemple, la niche sociale, sur
une niche où globalement, c'est ça, c'est le résultat que vous visez.
Oui, c'est ça.
Sur les niches fiscales, globalement.
1 milliard de baisse d'impôts sur les niches. 1 milliard de baisse pour les 5 milliards d'euros d'impôt sur le revenu sur les niches et 4 milliards sur l'économie que fera l'État et le champ social.
Alors, par exemple, prenons une autre niche très concrète, la réduction d'impôts qui avait été accordée aux restaurateurs avec une TVA à 10%. Vous voulez revenir dessus ou pas?
Non.
D'accord. Est-ce que vous voulez revenir sur le crédit impôt recherche qui est destiné à soutenir l'innovation et l'investissement et qui est très prisé des entreprises?
Non, ce n'est pas le cas.
Alors,
ce n'est pas le cas, pourquoi? Parce que le crédit impôt recherche, il permet, je crois, à l'entreprise française, à l'entreprise France, d'avoir beaucoup de brevets et d'avoir beaucoup de valeurs ajoutées supplémentaires. Donc la question qui se posera par contre, Monsieur Sportouche, c'est la question de la baisse de l'impôt sur les sociétés que nous mettons en place. Nous baissons l'impôt sur les sociétés pour arriver à un niveau de notre premier partenaire qui est le niveau allemand.
Un peu moins vite que prévu.
Ouais. On sera à 25 à la fin du quinquennat, mais c'est une économie que vous avez évoquée, je réponds à la question des économies. Un peu moins vite que prévu, c'est-à-dire qu'on a dit aux entreprises, écoutez, il faut d'abord baisser l'impôt des ménages, il faut écouter le peuple, je pense que c'est une question qu'on évoquera tout à l'heure, il faut écouter le peuple ouvrier, il faut comprendre que la redistribution, c'est pour tout le monde, et donc on a dit aux entreprises, nous baisserons les impôts, nous l'avons beaucoup baissé, on a supprimé l'ISF, on a mis la flat tax, on baisse l'impôt sur les sociétés, mais on va le faire un peu moins vite que prévu, bah, attendez, c'est très important parce que là on parle de milliards d'euros, un peu moins vite que prévu, vous aurez vos baisses d'impôts. Simplement, on va en même temps baisser l'impôt sur les ménages. Et donc les entreprises, moi je remercie le patron du MEDEF, le patron de la FEP, qui ont compris ça, qui ont accepté l'étalement de la baisse d'impôts.
Jusqu'à quand alors l'étalement baisser... de la baisse d'impôts?
Mais jusqu'en 2022.
Jusqu'en 2022.
En 2022, nous tiendrons nos objectifs de baisse d'impôts pour les entreprises et de baisse d'impôts pour les ménages.
Autre niche fiscale qui concerne beaucoup de ceux qui nous regardent ou nous écoutent, Christophe Jacuzzi.
Très concrète, c'est celle sur les fenêtres pour l'isolation. Le Premier ministre a dit qu'elle allait être transformée, d'où la crainte de la part des particuliers qui changent leurs fenêtres et des professionnels qui se disent bah, c'est quand même toute une filière justement plutôt écolo qui risque d'être menacée.
Ah, c'est difficile hein, de supprimer les niches, vous avez vu.
Bon. Mais ça c'est votre travail.
Qu'a dit le Premier ministre? Il a dit nous allons faire une grande ambition écologique et dans l'ambition écologique, il y a la transition des ménages. Et dans la transition des ménages, il y a des incitations fiscales à le faire, notamment si vous changez vos portes et vos fenêtres, vous avez un crédit d'impôt qu'on appelle le CITE. On s'est aperçu avec le ministre d'État François de Rugy que cette baisse d'impôt était avant tout une baisse d'impôt pour les ménages les plus aisés. C'est-à-dire que les Français les plus riches bénéficiaient le plus de cette niche fiscale. C'est pas très juste, parce que ceux qui ont le plus besoin de regarder leur facture d'électricité baisser, ou leur facture de gaz baisser, de ne pas avoir des passoires thermiques, c'est les maisons 1930 qu'il y a à Roubaix et à Tourcoing, de gens qui gagnent 1500 euros par mois, et qui parfois n'ont pas même compris le principe du crédit d'impôt parce qu'ils ne payent pas d'impôt. Et donc ce qu'a dit le Premier ministre, c'est qu'on va garder, bien sûr, cette aide pour transformer votre maison, pour la rendre plus écologiquement responsable. On veut qu'elle profite un peu moins aux plus riches parce que ce n'est pas eux qui ont le plus besoin de rénover énergétiquement leur maison.
Donc on plafonne ?
Non, on fait une prime. C'est-à-dire qu'on ne passe pas sur un crédit d'impôt, une niche fiscale, on passe par la distribution en échange de « je refais votre maison », indépendamment d'ailleurs de votre salaire, un remboursement ou une avance, ça dépendra, on y travaille. Ça veut dire que dans la politique que nous menons, les ouvriers, les employés, les salariés qui aujourd'hui ne bénéficient pas de quelque chose qui existe, en bénéficieront massivement pour changer leurs fenêtres, leurs portes, leur cave à fioul, ce qui leur permettra de faire baisser leurs factures, non seulement leurs factures en tant que pouvoir d'achat, mais aussi la pollution qu'ils commettent, alors qu'ils n'ont pas les moyens de
transformer leur maison. Vous avez donné un chiffre important, 1 milliard de baisse pour les niches fiscales, d'économies sur les niches fiscales, 4 milliards en moins, j'ai bien entendu, de dépenses publiques en 2020. Guillaume Roquette.
Oui, qu'est-ce que concrètement vont être ces baisses des dépenses? Vous nous avez expliqué ce que vous allez faire à Bercy, mais j'imagine que vous n'allez pas être le seul à participer à ces 4 milliards d'économies.
Mais regardez, vous êtes toujours en train de regarder simplement l'État. Et l'État fait beaucoup de travail. Julien de Normandie porte une réforme très courageuse du logement. Il y a encore une baisse des crédits depuis 2 ans sur la politique du logement parce qu'on fait moins d'aides et plus de réformes structurelles.
Vous avez vu qu'il y a moins de construction, moins de mise en chantier et moins de permis de construire.
Mais nous sommes à la veille des élections municipales. Excusez-moi, j'ai été maire, je sais très bien qu'à la veille des élections municipales, on construit moins qu'au lendemain des élections municipales parce qu'en général, vous êtes moins content de voir des grues arriver près de chez vous.
Non, mais est-ce que ça veut, dire moins de services publics?
Permettez de répondre à la question
que se posent les gens. Est-ce que c'est moins de services publics?
Le logement, une réforme. Les contrats aidés, nous continuons à faire, nous l'avons dit que c'était en plusieurs années, la baisse des contrats aidés pour les remplacer par des vrais contrats.
Combien d'économies?
On est à peu près 1 milliard.
1 milliard.
Nous avons aujourd'hui des contrats aidés qui se transforment en vrais contrats avec la formation professionnelle qui augmente. C'est aussi des économies. L'audiovisuel public, c'est aussi des économies. Puis on regarde aussi du côté du champ social. Parce que l'État, c'est 30% de la dépense. Le champ social, c'est 50%. Quand la ministre du Travail annoncera le 18 juin une grande réforme de l'assurance chômage, vous connaissez le document de cadrage qu'on a donné aux partenaires sociaux il y a 6 mois. C'était entre 3 et 3,9 milliards d'euros d'économies. Vous voyez, on n'est pas très loin de ce que vous m'évoquez sur la baisse d'impôts. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que bien sûr que le gouvernement réforme, et il est responsable. Il baisse ses impôts en même temps qu'il baisse le chômage et en même temps qu'il rétablit nos comptes. Vous savez, le déficit autour de 2%, ça n'est pas arrivé depuis 2001. J'avais à peine le bac. Et c'était M. Jospin qui était Premier ministre. Ça ne rajeunit personne autour de la table. Ben, ce que je veux vous dire, c'est que je suis très fier d'appartenir à un gouvernement qui baisse ses impôts, qui baisse le chômage et qui rétablit...
C'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Monsieur Darmanin, bonjour. Je suis Daniel Keller, président de l'Association des anciens élèves de l'ENA. Vous militez pour la suppression de l'ENA au motif que cette école serait socialement trop élitiste. C'est le cas de toutes les grandes écoles françaises et l'ENA n'est pas la pire. Trouvez-vous, monsieur le ministre, normal de faire de l'ENA le bouc émissaire des imperfections de notre système scolaire? Merci à vous.
Gérald Darmanin, réponse courte, s'il vous plaît. On va arriver à la pause, cette émission.
Bon, d'abord, comme argument, dire que parce que c'est pas la pire, il faudrait pas y toucher, c'est un drôle d'argument, je le trouve. Moi, j'ai pour mon pays l'ambition que ce soit la meilleure, pas la moins pire. Bon. Le président de la République a dit qu'on allait supprimer l'ENA. Et M. Thiriez travaille beaucoup avec Olivier Dussopt, avec moi-même, pour proposer autre chose au président de la République, c'est-à-dire une école bien sûr, fondée sur le concours, parce que c'est républicain et que c'est mieux que la reproduction des enfants d'énarques qui deviennent même énarques, ce qui était le cas sous la Troisième République, mais qui doit s'ouvrir vers le monde. Il n'est pas tout à fait normal que, malgré les grands services qu'ont rendus les énarques et qu'ont rendus l'ENA, on puisse avoir, je le crois, une école qui est manifestement, qui n'est pas rentré dans l'ère de la modernisation. Et ben, nous avons proposé, à la demande du président de la République, cette nouvelle école. Et ça touchera pas simplement l'ENA, ça touche toutes les grandes écoles.
On se retrouve dans quelques minutes pour le grand jury de Gérald Darmanin. A tout de suite.
Du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Christophe Jacubizine de TF1 LCI qui vous pose la première question de cette seconde partie.
Demain, les lycéens passeront le bac. Il y a des tensions chez les enseignants qui réclament de meilleures rémunérations. Sur cette antenne, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a dit vendredi qu'il souhaitait une revalorisation des salaires des enseignants et qu'il en parlerait avec vous. Alors, est-ce que vous êtes parlé? Est-ce que vous allez pouvoir sortir votre carte bleue?
C'est pas la mienne, hein, c'est celle de l'État. Nous, on souhaite tous une revalorisation des agents publics en général et singulièrement des enseignants en particulier. Ils sont, c'est vrai, en général, moins bien lotis que leurs collègues européens. Et les classements montrent qu'effectivement, l'école française doit continuer à faire le travail pour lequel Jean-Michel Blanquer fait un travail très important, et singulièrement pour l'école primaire, élémentaire et maternelle. Nous avons déjà commencé des revalorisations très importantes d'enseignants. D'abord pour ceux qui travaillent dans les zones difficiles, les REP et les REP+. Vous savez, chez moi, 70% des écoles à Tourcoing sont dans des zones REP ou REP+. Il y a une prime qui va d'ailleurs augmenter encore. Et cette prime, elle peut atteindre un montant très important qui est l'équivalent d'un salaire pour les enseignants.
Donc un 13e
la deuxième
mois.
Des choses, pardon.
Un 13e mois.
Exactement. La deuxième des choses, c'est que nous avons, comme sommes arrivés en responsabilité, nous avons fait le chèque, si j'ose dire, la carte bleue de ce qui avait été décidé par l'ancien gouvernement qui n'avait pas été financé. Ce qu'on appelle le protocole PPCR, la rémunération qui augmente pour tous les agents publics, les enseignants en bénéficient et vont en bénéficier beaucoup l'année prochaine, en 2020, qui est la montée en charge très
importante. Apparemment, Michel Blanquer veut plus.
De ces salaires. Puis après, il y a une troisième question. Est-ce qu'on revalorise le salaire des enseignants lorsqu'on fera la réforme des retraites, puisque les enseignants, comme d'autres agents publics, vont connaître une différence de traitement, puisque jusqu'à présent, on calculait leur retraite sur les 6 derniers mois.
Exactement.
Et que la réforme proposée par Jean-Paul Delevoye, la réforme par points, le projet de société que présente la réforme par points, ce sera sur toute la carrière. Et donc, il peut y avoir des personnes qui peuvent être un peu avoir des pouvoirs d'achat en moins ou considérer qu'ils sont lésés, comme les agents publics et singulièrement comme les enseignants qui ont peu de primes, contrairement à d'autres agents publics. Et donc là, nous travaillons avec Jean-Michel Blanquer, c'est l'objet du rendez-vous que j'aurai bientôt avec lui, pour voir comment on peut effectivement revaloriser les enseignants, ce qu'a dit le président de la République au moment de cette
réforme. C'est un vaste chantier, c'est-à-dire augmenter les salaires des fonctionnaires pour qu'ils ne soient pas pénalisés par la réforme des retraites.
Exactement, puis en même temps, si j'ose dire, pas simplement répondre à cette question, répondre à la question structurelle, effectivement, du salaire des agents publics. C'est d'ailleurs pour ça que dans la réforme que je porte... C'est d'ailleurs pour ça que la réforme que je porte avec Olivier Dussopt sur la fonction publique n'a pas prévu la question de la rémunération. Parce qu'on a toujours dit que la question de la rémunération des agents publics est une question très importante, qui doit être fondée sur le mérite, sur le travail. Elle doit être en lien avec la réforme des retraites et pas avec la réforme
donc,
de...
Donc ça sera d'ici la fin de l'année, puisque la réforme des retraites devrait être...
Je crois savoir que M. le Haut-Commissaire remet au Premier ministre pour la mi-juillet les premières conclusions de sa réforme.
Sur l'indice de salaire des fonctionnaires, il n'y aura pas d'augmentation, il n'y en a pas eu en 2019, il n'y en aura pas en 2020.
On a toujours choisi, mais pas simplement pour les agents, pour les enseignants, pour tous les fonctionnaires, de ne pas faire d'augmentation du point d'indice, qui est une augmentation généralisée et qui touche autant l'inspecteur des finances que le jardinier municipal, mais de le faire, si j'ose dire, par profession. Et c'est ce que nous faisons avec la ministre de la Justice pour les surveillants pénitentiaires, avec la ministre de la Santé pour un certain nombre de professions médicales ou avec le ministre de l'Éducation nationale pour les enseignants.
Guillaume Roquette.
Pierre Person, le numéro 2 de La République En Marche, expliquer cette semaine que là où on fermait des centres des impôts, le Rassemblement national progressait électoralement. Et pourtant, vous assumez ces fermetures de centres d'impôts en région ?
Alors, je ne sais pas s'il y a une causalité. Je ne sais pas si ce qu'on demande en premier dans un village quand on s'installe, c'est où est l'inspecteur des impôts ? Je pense que quand on s'installe dans un village, on demande où est le médecin, où est la poste, où est le service public peut-être de mon quotidien. Parce que
donc
les
vous dites
impôts,
c'est une bonne nouvelle quand on ferme des centres des
non,
impôts pour les contribuables.
Je ne dis pas ça, mais je pense qu'il ne faut pas non plus caricaturer les propos. Ce qui est sûr, c'est que depuis 10 ans et singulièrement depuis 5 ans, on a beaucoup fermé de ce qu'on appelle les trésoreries, les agences des impôts, si vous le souhaitez. On en a fermé par exemple dans les 5 dernières années plus de 700. lorsque je suis arrivé en responsabilité, j'ai refusé qu'on ferme des trésoreries, notamment dans le monde rural. Et puis j'ai vu que les choses ne pouvaient pas être durables. Vous savez, il y a 110 000 agents à la Direction Générale des Finances Publiques, c'est-à-dire dans mon ministère. Et j'avais à la fois 110 000 agents, des grandes transformations, la suppression de la taxe d'habitation, l'impôt à la source, la simplification administrative, et en même temps des élus qui me disaient, dans les territoires ruraux notamment, ben voilà, notre trésorerie va peut-être partir, notre école, on se pose la question, et puis ça fait longtemps que les autres services publics sont partis. C'est pour ça que j'ai proposé, après le discours du président de la République, et après avoir proposé ma copie au Premier ministre, de renforcer le nombre d'agents publics des impôts au contact des petites communes et des populations. Et ce que j'ai proposé, il y a en ce moment même une concertation jusqu'au mois de septembre, c'est qu'on augmente de 30% le lieu où on rencontre des agents de mon administration dans le territoire rural.
Et donc ça veut dire qu'on peut fermer encore des trésoreries, mais les fonctionnaires des impôts resteront là néanmoins.
Mais d'abord parce que vous devez travailler autrement. La trésorerie, si vous allez dans l'Eure par exemple, vous avez à la fois des trésoreries qui sont des trésoreries qui sont là en lien avec les collectivités locales, qui traitent les mandats, les factures que prend en charge le maire ou le centre hospitalier, qui n'est pas un lieu de contact avec la population. Et puis vous avez des trésoreries où les gens sont en contact avec la population. Et c'est déjà un peu fou comme système, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent dans des trésoreries, et les agents des impôts, qui sont des gens très professionnels, leur répondent, mais c'est peut-être pas leur métier, peut-être que leur métier à eux, c'est traiter des mandats des mairies, par exemple. Donc on a besoin de simplification, pour parler en mauvais français de front et de back-office, des lieux sur rendez-vous, par exemple, des agents qui se déplacent vers les villages, et non pas des villages qui se déplacent vers les agents, ça demande une autre organisation, et c'est la carte que j'ai proposée en renforçant le nombre d'agents du service public. Quand je supprime la taxe d'habitation, quand je fais l'impôt à la source, lorsque je décide, par exemple, qu'il n'y a plus de déclaration d'impôt pour une grande partie des Français les prochaines. Je fais d'énormes économies d'échelle. Mais et je vais donc les redéployer pour répondre à la question notamment de la crise de la ruralité.
Vous avez, est-ce que notamment cette réduction du nombre de trésoreries, vous dites que ça peut faire partir des économies. Vous disiez récemment dans une interview qui a fait beaucoup parler dans Le Point, la majorité présidentielle doit parler davantage au peuple et pas seulement aux élites. Vous avez jugé nécessaire l'adhésion des classes populaires pour mener à bien les réformes. Une interview, nous dit-on, qui a été modérément appréciée à l'Élysée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en prenant ce genre de mesures, des points de contact à la place des trésoreries, mais également peut-être aussi à la retraite à 64 ans, même si le chiffre n'a pas été prononcé très clairement par le Premier ministre, eh bien, c'est une politique qui ne va pas dans le sens du peuple comme vous le souhaitez.
Alors, pour revenir sur la question très importante des électeurs populaires, des classes populaires, des classes moyennes, et le rapport au pouvoir, c'est pas nouveau. Ça fait depuis le référendum de 2005 qu'on voit bien qu'il y a une France du oui, une France du non. Moi, je crois que Nicolas Sarkozy, en 2007, a réussi à reparler à cet électorat avec un duo dont le premier était quand même le travail, et après, c'était la sécurité. Et puis depuis, personne, à droite comme à gauche, n'a réussi à répondre à cette grande interrogation qui a poussé de plus en plus de Français, non pas simplement de s'abstenir ou de voter pour les extrêmes, mais on voit bien que les ouvriers et les employés votent pour les extrêmes, je caricature, mais c'est à peu près ça les cartes électorales, et que les gagnants de la mondialisation votent pour les partis de gouvernement.
Et vous dites que Emmanuel Macron non plus n'a pas réussi cette
équation. Ça, c'est très dangereux. Mais regardons les élections européennes, nous n'avons pas gagné les élections européennes. Quand je vois ma région, je vois un îlot pour la République En Marche, qui est la métropole lilloise, et je vois un océan pour le Front National, qui est tout le reste de la région. Ben non seulement c'est dangereux pour les élections, et pour le président de la République, et pour nous, mais c'est dangereux pour le pays.
Alors, donc vous tirez sur l'alarme, cette politique n'est pas suffisante.
Je vais vous dire, je me fiche de savoir si c'est apprécié ou pas apprécié, c'est ce que je vois. Moi, je suis fils d'une femme de ménage, petit-fils d'un tirailleur algérien. Ma mère, elle se lève encore à 5h du matin pour vivre décemment. Et elle est très fière de son travail. Et par ailleurs, je suis une ville populaire où il y a 30% de la population sous le seuil de pauvreté, qui a connu la chute du textile, de la vente par correspondance. Et je pense que je peux apporter modestement une voix comme d'autres, comme Arlène Schiappa, comme Sébastien Lecornu, une voix de gens qui disent, vous savez, bien sûr, il faut faire des réformes. Mais il faut que nous ayons encore plus la proximité et l'humilité au cœur. Et il y a des choses que fait le président de la République depuis 2 ans qui correspondent
à ça. Mais ce n'est pas suffisant, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Même après le discours de politique générale, vous dites que ce n'est pas suffisant.
Mais la baisse de l'impôt sur le revenu sur les classes moyennes et les classes populaires, c'est exactement ça. Lorsque le gouvernement décide de proposer au Parlement la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est exactement ça. Lorsque nous choisissons de notamment faire la réforme de l'assurance chômage, c'est très intéressant. On peut l'avoir comme une réforme technique et budgétaire. On peut aussi se dire qu'aujourd'hui, 87% des gens qui trouvent un emploi, il y a plus de 10 000 chômeurs par exemple à Tourcoing, ils sont en CDD. Et un tiers de ces CDD, c'est des CDD de moins d'une semaine. Aujourd'hui, il y a 400 000 personnes qui re-signent un contrat, qui sont de réembauche dans l'entreprise où ils travaillaient il y a encore un mois. Est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir un crédit pour acheter votre maison, payer votre facture d'électricité, On va dire à vos enfants de faire des études lorsque vous faites des contrats d'une semaine pendant des années.
Gérald
la réforme de l'assurance chômage, oui. C'est une réforme pour le monde ouvrier.
Combien d'économies sur l'assurance chômage?
On a plus de 3 milliards, à peu près.
C'est ce que vous estimez, il y aura plus de 3 milliards. En même temps, vous dites...
Mais attendez, c'est une question intéressante. Oui. Vous ne me posez pas la question des cadres. Aujourd'hui, les cadres, pendant 2 ans, ils peuvent toucher jusqu'à 7 500 euros.
Donc vous allez réduire, leur prestation.
Moi, je le souhaite. Moi, je souhaite qu'on aide plus ouvriers et l'employé qui multiplient les contrats d'une journée. Vous savez, je connais même des gens qui font des contrats à l'heure. Quand je suis arrivé en responsabilité, j'ai eu des gens dans ma mairie qui m'ont expliqué qu'ils faisaient des contrats à l'heure. Comment voulez-vous que des femmes et des hommes puissent être dignes dans leur travail, ne pas aller voter pour les extrêmes, croire en la République, quand on leur dit que la précarité, ce sera leur avenir?
Mais les cadres ont cotisé comme les autres pour le chômage, pourquoi est-ce qu'ils devraient toucher moins?
Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, c'est la CSG qui remplace ces cotisations, puisqu'on les a supprimées voilà quelques mois.
Absolument.
Bon, donc aujourd'hui, la République, avec les partenaires sociaux, on a laissé 6 mois partenaires sociaux.
Mais les cadres payent aussi la CSG.
Mais bien sûr, mais tout le monde en paye. Et nous devons discuter ensemble de ça. Mais moi, je ne trouve pas logique quand le chômage des cadres est à moins de 4%. On continue à avoir des gens qui peuvent, deux fois plus que l'Allemagne, trois fois plus que l'Allemagne, me semble-t-il, avoir jusqu'à 7 500 euros de chômage pendant 2 ans, et des ouvrières dans les usines de Tourcoing qui font des contrats d'une semaine et qui sont réembauchées parce qu'on applique un peu le code du travail, parce que l'entreprise n'a pas décidé d'être sociale.
On vous entend sur cet équilibre que vous voulez faire, mais est-ce que, en allant au peuple, comme vous dites, puisque c'est important, pour reciter le numéro 2 de La République En Marche, qui est quand même le principal parti de la majorité, et Pierre Person, son numéro 2, il dit « Nous ne pouvons pas répondre à l'Assemblée nationale en utilisant les mêmes armes que lui ». Et en réponse à une question... sur justement le fait que vous ayez dit dans cette interview au Point qu'il fallait davantage parler au peuple. Il dit qu'il faut parler à tout le monde. Voilà. Est-ce que on a l'impression que vous segmentez un petit peu votre offre politique? Et c'est ce qu'il dit. Attention, ce sont les mêmes armes que le Rassemblement National.
Non mais je ne pense pas que ce soit ce qu'a dit exactement Pierre Person. Puis de toute façon, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même terre d'élection, c'est normal.
Et c'est un ancien socialiste.
Non mais surtout, il est élu à Paris et moi je comprends tout à fait ça.
Donc c'est une vision un peu parisianiste.
Non, il faut qu'on parle à tout le monde, bien sûr. Mais je pense qu'il est normal qu'il y ait un arc-en-ciel, si j'ose dire, dans la majorité, qui évoque un certain nombre de choses. Moi, je suis attaché, depuis 15 ans que je suis élu à Tourcoing, à répondre à une dimension sociale très importante. Bien sûr, mais ce n'est pas nouveau avec Emmanuel Macron, c'est vrai avec tous les partis de gouvernement. Et c'est ça qui devrait nous désespérer. C'est la question que devrait se poser le Parti Socialiste. Et parce que vous savez, l'électorat du Front National aujourd'hui, c'est essentiellement un électorat qui vient de la gauche. Tous les bastions communistes de la région des Hauts-de-France ont voté Front National. Tous les bureaux de gauche, historiquement, de ma commune ont voté Front National.
Donc ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'une réélection d'Emmanuel Macron en 2022 n'est pas acquise s'il se retrouve face au Rassemblement National.
Aucune élection n'est acquise. Marine Le Pen, moi depuis que je suis en âge de voter, je vote contre les Le Pen, le grand-père, la tante, peut-être demain la nièce. Donc la PME familiale Le Pen fonctionne et gagne des parts de marché. Et en tant que républicain et démocrate, je trouve ça extrêmement préoccupant. Et si je me suis engagé pour Emmanuel Macron, c'est que je pense qu'il est le seul capable de répondre à cette grande fracture sociale. Si je suis fier d'être ministre de ce gouvernement, c'est parce que je pense qu'on peut y répondre. Maintenant, oui, il faut avoir l'humilité de dire qu'on n'a pas encore totalement répondu à cette demande sociale.
Guillaume Roquette.
Aux dernières européennes, il y a eu une liste communautaire, l'Union des démocrates musulmans, qui s'est présentée aux élections. Est-ce que ça vous a choqué?
Ce qui me choque, moi, c'est les résultats qu'a fait cette liste. Moi, je constate, dans la ville de Maubeuge, par exemple, je rappelle qu'il fallait imprimer le bulletin de vote. Quelle démarche faut-il pour imprimer le bulletin de vote?
Les électeurs devaient l'imprimer parce qu'on ne le trouvait pas dans les bureaux de vote.
Exactement. Donc imaginez ce que cela veut dire. Il faut imprimer, ça demande une petite organisation, permettez-moi de le dire. Imprimer le bulletin de vote et aller aux urnes pour voter cette liste parmi les 34. Et dans un bureau de vote particulier de Maubeuge, que je connais bien, dont je salue d'ailleurs le maire qui fait un travail difficile, dans le quartier des Écrivains, sur 170 votants, il y a eu 70 votes pour cette liste. Ça veut dire que plus de 40% des votants de ce bureau de vote ont imprimé leur bureau de vote et ont voté pour cette liste qui se disait musulmane.
Vous voulez interdire ces listes, c'est ça?
Non mais d'abord, on va regarder le constat. C'est un constat terrible pour la République. Et c'est fait pas simplement à Maubeuge. Parce que cette liste, elle a fait moins d'1% au niveau national. C'est vrai dans des lieux qui sont manifestement communautarisés et qui se mettent à part de la République. Ça, c'est un constat que les républicains doivent regarder dans les yeux dans les yeux. Alors, c'est quoi la solution à ça? Il y a la solution du travail, la solution de l'urbanisation, l'ANRU, que fait Julien Normandie très courageusement, la question de la sécurité, et puis il y a la question des réponses immédiates. Moi, je crois que tous ceux qui ont un programme contraire à la République, ceux qui sont pour les horaires différenciés dans les piscines, ceux qui veulent des repas communautaires pas des repas végétariens, des repas communautaires dans les cantines. Ceux qui ne prônent pas l'égalité entre les femmes et les hommes, contraire directement à la Constitution de la République. Je ne pense pas qu'ils pourraient se proposer au suffrage des électeurs.
Mais ça veut dire qu'on interdit des listes.
Je pense que la République, quand même, je pense qu'il faut que la République se défende.
Mais dans avec une loi, comment vous pensez qu'il
faut qu'on en ait le débat.
Oui, mais et ensuite.
Non, mais ça fait un mois que l'élection européenne est passée.
Oui.
C'est très intéressant. Personne ne parle de ce sujet. Vous allez dans certaines villes de France, vous constaterez qu'il y a cette liste a fait parfois, à Garges-lès-Gonesse, cette liste a fait plus de 5%.
Parce que certains disent que vous agitez un chiffon rouge qui est quand même extrêmement minoritaire, que vous allez du coup eh bien, sur les terres
mais
de
mon
la
France
et sur cette thème.
Mais mon grand-père priait Allah et la République. Chacun sait que les musulmans de France, dans leur très grande majorité, ils sont des citoyens, par plusieurs générations, ils sont morts au combat.
Et cette liste a été validée par le Conseil constitutionnel.
Mon grand-père travaillait pour la République auprès du général de Gaulle, quand d'autres collaboraient à Vichy, ça n'a rien à voir avec la religion ou la couleur de peau. C'est pas du tout mon procès, je l'ai toujours dit d'ailleurs, y compris à mon ancienne famille politique. Simplement, il ne faut pas se demander pourquoi il y a des bureaux de vote à 35% Front National, quand celui d'à côté vote à 40% pour la liste et quand on qui s'apparente comme communautaire. En tout cas, moi je dis qu'il faut en parler. Parce que si on ne dit pas des mots sur les choses, les Français qui le vivent, les Français qui nous écoutent à Maubeuge, ou à Vénissieux, ou à Garges-lès-Gonesse aujourd'hui, ben vous inquiétez pas, hein, la réalité, il la voit dans la rue, il la voit auprès de lui, il la voit dans l'école de ses enfants. Aujourd'hui, dans les évictions scolaires, c'est très intéressant. Personne n'en parle jamais. Il y a des dizaines d'enfants qui sont plus scolarisés à l'école. Et M. Blanquer fait un travail absolument formidable pour lutter contre ça. Des petites filles en moins, en CP ou en maternelle. C'est les Républicains qui devraient être attaqués. Ben pourquoi ? Parce qu'il y a plus de scolarisation à domicile, parce qu'il peut y avoir de la radicalisation. Quand le ministre de l'Intérieur, très courageusement, ferme des lieux de culte, il ne fait pas un travail pour le Front National, il fait un travail pour la République.
Mais le même
et sans disant rien qu'on fait un travail pour
Darmanin,
le Front National.
Le même Jean-Michel Blanquer autorise les accompagnements de sortie scolaire par les mères de famille voilées.
Bon, personnellement, je n'ai jamais cru que la République était attaquée parce qu'une femme avait un foulard à la sortie de l'école pour l'accompagner au musée du coin.
C'est les sorties dans le cadre scolaire, ce n'est pas la sortie de l'école.
La sortie scolaire, c'est en dehors de l'école. C'est le principe même, me semble-t-il, de la sortie scolaire.
Mais pendant les heures scolaires, vous êtes d'accord ?
Non, moi je veux vous dire, ça ne m'a jamais choqué qu'une dame qui a un foulard, pas un voile islamique, qui a un foulard, accompagne des enfants parce qu'elle était musulmane et qu'elle avait, comme une dame qui avait envie de ne pas le faire, pour faire une sortie scolaire. Ce qui me choque, par contre, c'est que les petites filles ne soient pas à l'école. Ça me choque beaucoup. Ce qui me choque, c'est qu'il y ait des listes communautaires qui se présentent. Ouais, ça me choque beaucoup. Ce qui me choque, c'est qu'on ne ferme pas les lieux de culte pendant longtemps. On a voulu fermer les yeux parce que ça faisait le jeu du Front National. C'est ça qui me choque. Et moi, je vais vous dire, les musulmans, ils sont totalement français, évidemment, comme les catholiques, comme les hindouistes, comme les juifs, comme les agnostiques. Et ils sont les premiers à le réclamer. Il est premier à réclamer que la République mette de l'ordre et qu'on s'en fout de la religion, on s'en fout de la couleur de peau. Ce qu'il faut, c'est qu'on respecte notre pays. Et eux-mêmes, je vais vous dire, demandent la fermeté de l'État.
C'est l'heure de Question Express.
Le grand jury, Question Express.
Quelques items à vous proposer. Pour ou contre, Gérald Darmanin, la PMA pour toutes les femmes ?
Oui, je suis pour, le gouvernement l'a proposé.
Vous avez changé d'avis ?
Non, je n'ai pas pour. J'ai toujours eu un certain nombre de prévention devant les questions sociétales. Je ne pense pas que les politiques peuvent avoir une réponse pour un oui, pour un non. Et voilà, ma conviction est faite, de même que je crois que j'aurais dû voter pour le mariage pour tous. Voilà.
Vous exprimez ce regret aujourd'hui.
Oui, oui.
Pour ou contre le référendum sur la réduction du nombre de parlementaires ?
Le référendum est une arme du président de la République.
Est-ce que vous lui conseilleriez ? Puisque ça va pas pouvoir se faire avec le Sénat, a priori.
En général, je travaillais pour quelqu'un qui me disait que les propos de vestiaire restaient dans le vestiaire. Donc ce que je conseille éventuellement au président de la République restera.
Est-ce que vous le souhaitez, vous ?
Je viens de vous répondre. Moi, je pense que le Parlement devrait, Sénat et Assemblée, comprendre ce qui se passe dans le pays et accepter la réduction du nombre de parlementaires.
Et enfin, pour ou contre l'irresponsabilité pénale en dessous de 13 ans, Gérald Darmanin ?
Moi, je suis pour ce que propose la garde des Sceaux, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'on comprenne qu'au moins de 13 ans, ce sont des enfants. Et en plus, c'est 18 mois, désormais 15 mois de procès avant d'avoir un mineur devant un tribunal. C'est-à-dire qu'il arrive à 15-16 ans, au moment où il a commis peut-être son fait à 12-13 ans. Donc la sanction, pour qu'elle soit pédagogique, elle doit être proportionnée, donc pas la prison. On ne met pas des enfants en prison à moins de 13 ans, mais il doit y avoir une sanction, et ce n'est pas 15 mois après. Ce n'est pas comme ça qu'on éduque des enfants. Donc je suis pour la sanction, mais je ne suis pas forcément pour qu'effectivement ce soit pénal. Alors, ce qu'a dit la garde des Sceaux, excusez-moi, ce n'est pas la fin de ce qui se passait auparavant. Elle a dit, mais désormais, il faut que le juge motive. Voilà. Et c'est très différent de ce que vous évoquez rapidement.
Vous qui venez de la droite, on voit ces mesures, la PMA pour toutes les femmes, les mères voilées qui peuvent accompagner des sorties scolaires, l'irresponsabilité pénale en dessous de 13 ans.
Attendez,
on est loin de la droite, là.
Vous savez qui a pris la circulaire pour permettre aux femmes voilées d'accompagner les enfants ? C'est M. Châtel. Monsieur Châtel, c'est pas un gauchiste révolutionnaire.
Il y a discussion sur la façon dont
c'est populaire.
Sur le fond de la question.
Le lecteur du Figaro que vous êtes, vous avez constaté qu'aucun gouvernement de droite n'a jamais interdit ça, par ailleurs.
Alors,
vous savez,
en revanche, le gouvernement de droite était contre la PMA.
Oui, d'ailleurs, je comprends maintenant que Geoffroy Didier, qui était directeur de campagne de Monsieur Bellamy, qui n'était manifestement pas non plus un gauchiste révolutionnaire, disait qu'il s'était trompé. Donc la question peut se poser également. Bien heureux celui qui a des idées préconçues sur la vie des gens toute sa vie. Moi, je ne suis pas de cela. Et je considère qu'on peut se tromper et qu'on peut aussi vivre avec la discussion, et notamment la discussion très importante. Moi, j'ai été convaincu par Mme Buzyn, Mme Vidal, de la démonstration qu'ils ont faite plusieurs fois au Conseil des ministres.
Gérald, c'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, question nette.
Marie-Pierre Haddad, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Alors le maire de Béziers, Robert Ménard, s'exprime en ce moment même sur BFM TV et pour lui, je le cite, « Les gens n'en peuvent plus des migrants, tout ce qui limitera l'immigration de masse est bienvenu. » Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Que je suis définitivement pas d'accord avec M. Ménard. C'est-à-dire que moi, je crois qu'effectivement, notre pays doit avoir la maîtrise de notre immigration. Le ministre de l'Intérieur a fait une très bonne interview ce matin dans le journal du dimanche. On doit sortir le droit d'asile, parce que je crois que M. Ménard confond un peu tout. Et on doit réguler, bien sûr, l'immigration de notre pays. Il y a un débat au Parlement désormais chaque année au mois de septembre. Il faut regarder les choses en face. Mais le sujet n'est, à mon avis, pas tellement l'immigration, ou la couleur de peau, ou d'où viennent les gens, mais est-ce qu'ils respectent les lois de la République.
Parce qu'avec des
raisonnements comme ça, moi, je ne serais pas devant vous.
Mais le quota d'immigration économique, par exemple, ça vous concerne directement. Il y a aujourd'hui à peu près 25 000 visas pour pouvoir travailler en France. Est-ce que vous pouvez dire honnêtement dans ce pays qu'on a besoin d'une immigration économique, de main-d'œuvre, et de combien devrait être, selon vous, ce quota ?
Bah, je ne peux pas répondre à cette question. Il y a un débat au Parlement.
C'est ça la question.
Et c'est vous qui allez éclairer le gouvernement là-dessus, Gérald Darmanin ?
Moi, je crois qu'il faut que nous revoyions nos règles d'immigration. C'est ce qu'a dit le président de la République. Il y a l'asile qu'il faut traiter plus rapidement. Il faut l'accepter, évidemment, pour ceux... Il n'y a pas de quota à avoir, parce que la France, elle a toujours accepté des gens qui étaient pourchassés dans leur pays. Et il y a sans doute un certain nombre d'abus. C'est pour ça qu'on va rajouter des moyens, notamment pour ceux qui s'occupent du droit d'asile, l'année prochaine, dans le budget du ministre de l'Intérieur.
Mais la question, c'est, est-ce que réduire l'immigration, ça veut dire la réduire ?
Après, il y a l'immigration légale et l'immigration illégale. Si déjà on s'occupait de bien intégrer l'immigration légale et de combattre l'immigration illégale, on aurait déjà bien avancé.
Bon, la question, c'était, est-ce que réguler, ça veut dire réduire l'immigration ou ça n'est pas nécessaire ?
Ça veut dire que le Parlement, qui est souverain, comme au Canada par exemple, peut, s'il le souhaite, prendra ce pouvoir
mais
de mettre,
vous,
s'il le veut, des
nombres.
Je pense qu'il faut d'abord lutter contre l'immigration illégale ou le détournement du droit d'asile. Mais derrière ça, il y a des hommes et des femmes.
Je ne parle pas des choux et des patates. C'est pour ça qu'on vous pose la question.
Et je vous dis que pour moi, le problème que soulève M. Ménard, qui est de dire les Français n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus que les gens ne respectent plus la loi de la République. Ils s'en fichent de savoir quelle est la couleur de peau, la religion des gens qui sont dans la rue. Les Français, ils sont beaucoup moins sectaires, manifestement, que M. Ménard.
Oui, alors cette fois-ci, une question de Jean-Luc. Alors, Gérald Darmanin, vous êtes un proche de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Il a même été votre mentor. Et de l'autre côté, et en même temps, si on peut dire, vous êtes aussi très proche d'Emmanuel Macron. Dans le cas d'une candidature de Xavier Bertrand et d'Emmanuel Macron en 2022, vous soutenez qui ? C'est un dilemme cornélien.
J'ai toujours dit que non. J'ai toujours dit que j'étais le ministre d'Emmanuel Macron et que je soutiendrai à l'élection présidentielle. Et Xavier Bertrand est mon ami. C'est un excellent président de région. Heureusement qu'il y a des gens dans la droite française qui sont comme Xavier Bertrand. S'il y a eu plus de Xavier Bertrand que Laurent Wauquiez, on ferait sans doute pas 8% quand on est républicain. Mais je soutiens Emmanuel Macron et je suis très heureux de faire partie de son gouvernement.
Vous savez quoi, j'ai un petit secret.
Ouais. Même secrètement parfois, j'espère que Xavier Bertrand soutiendra Emmanuel Macron.
Toute dernière question, très rapide.
Oui, alors une séquence a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Hier, juste avant le début de la finale de Top 14, un joueur sud-africain du Stade Toulousain a demandé à Emmanuel Macron la nationalité française et le président lui a répondu « on lance la procédure ». Donc est-ce que c'est aussi simple que ça ? Il va y avoir une procédure accélérée pour ce joueur ?
Mais c'est ce qui se passe quand des gens qui n'ont pas de nationalité française vont voir leurs élus, par exemple.
C'est pas un deux poids deux mesures qu'immédiatement le président lui demande.
C'est ce qui se passe tous les jours. Moi, à Tourcoing hier, un de mes propres élus qui n'est pas de nationalité française, il est portugais, m'a souhaité avoir la nationalité française et souhaite que je puisse intervenir.
Et vous lui
avez
répondu, on va lancer la procédure.
Eh ben, je vais dire que c'est pas oui parce que je décide pas, c'est pas non parce que tant mieux s'il veut devenir français. Et effectivement, il y a une procédure. Parler français, respecter les lois de la République, on peut être français. C'est ça la France. C'est pas le sang, c'est la volonté.
Merci. Merci beaucoup Gérald Darmanin, c'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.
RTL.